Bonsoir et bienvenue dans Wake Up NBA, votre podcast hebdomadaire sur la NBA. Moi c'est Gus, très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Avant de présenter les gars, je vous souhaite évidemment une bonne année, que tous vos projets se réalisent, plein de bonheur, la santé, tout ça, vous connaissez. Comme d'habitude, je ne suis pas seul, je suis avec Vincent. Salut Vincent, comment ça va?
Salut Gus, salut tout le monde, bah, ça va salut. Nickel. On reprend tranquillement après avec
les excès.
Le début de l'année. Ouais, exactement. Donc non, c'est cool. C'est cool pour l'instant.
Parfait, parfait. Et le troisième personnage qui nous suit c'est aujourd'hui.
Personnage.
Ouais, personnage, parce qu'on voit si peu qu'on pourrait croire que t'es peut-être une
IA
fictive comme ça. Et du coup, vous l'avez entendu, c'est Nico. Salut Nico, comment ça va?
Salut tout le monde, bah écoute, bien content, j'ai pu profiter des vacances d'hiver où j'ai pas eu de vacances pour avancer un peu et me libérer du temps pour l'émission. Donc plutôt
parfait.
Content.
Merveilleux. Comme ça, ta présence nous permet de faire une émission aussi, parce qu'à deux c'est plus compliqué. Donc merci à toi d'être là. Cette semaine, nous allons donc parler de notre sélection pour les titulaires All-Star. On fera un petit tour par un trade qui s'est passé pendant les fêtes. Du côté de New York, Vincent va nous en parler, et aussi on va parler un peu des blessures de Ja Morant et de Tyrese Haliburton avant de se poser une petite question sur Wembanyama. Sortez tranquillement de votre lit, faites couler le café, le reste on s'en occupe, c'est parti. Et oui les gars, les votes pour le All-Star Weekend ont commencé. On peut déjà voir quelques classements sortir avec son lot de surprises habituelles. Mais nous, on va se poser et évidemment en discuter un peu de tout ça. Avant tout, on va d'abord donner nos titulaires de chaque conférence. On va commencer alors avec Nicolas qui va nous donner ses deux guards à l'Est. Et si tu me mets Tyler Herro dedans comme il y a deux ans, ça va mal se passer.
Non, ça a changé. La NBA a changé, comme dirait Mbappé. je pense qu'on va sûrement avoir les mêmes. Moi, j'ai mis Haliburton et Tyrese Maxey, voilà, du classique. Deux jeunes qui font un début de saison éclatant, avec des résultats collectifs plus que satisfaisants. Donc, voilà.
La même bon draft. Représenté
même draft, voilà. Deux vrais meneurs de jeu.
Oui, c'est vrai.
T'as pareil, toi, Gus?
Non, moi, j'ai pas pareil.
Moi non plus.
Aïe. Mais je crois que ça va te faire plaisir, parce que moi j'ai sorti Tyrese Maxey et pourtant ça me fait mal au cœur. Mais j'ai mis Jalen Brunson qui mérite tellement
mon
sa
numéro
place
3.
Avec la. Donc toi tu l'as sur ton banc, c'est déjà pas mal.
Et moi j'ai pareil que toi, j'ai Jalen Brunson et Tyrese Haliburton. Alors c'est pareil, moi en 3 j'ai Tyrese Maxey, dans le sens où si Haliburton est encore blessé, là ce sera Tyrese Maxey qui passera dans mon 5, je pense. Mais là, pour l'instant,
sûr.
J'ai Brunson à Haliburton. Parce qu'en fait, depuis le début de saison, Haliburton, il est presque indiscutable. En plus de ça, le All-Star Game à Indiana et tout.
Ah bah oui, belle story.
Enfin, normal, il va être dans le 5. C'est normal, les fans, d'ailleurs, dans les premiers retours de fans, il est bien. Je crois qu'il est premier à l'Est au niveau des guards. Et je mets Brunson, même pas parce que c'est New York, parce qu'en fait derrière ça va être un peu au bon vouloir de chacun. Donovan Mitchell, il va être dans la course. Trae Young, il va être dans la course. Ça va être des mecs qui font des stats.
Lillard,
il peut être dans la course, mais je trouve qu'il est un peu en dessous.
Ouais, mais justement, moi je l'ai pas mis du tout dans mon. Enfin, je l'ai sur le fond de banc au niveau des guards. Mais c'est parce qu'en fait, il a une notoriété, tu vois.
C'est ça, exactement. Lillard, c'est ça. C'est vraiment la notoriété, lui. C'est même pas tant sa saison. Parce que...
Et puis, c'est correct, mais voilà.
Je trouve qu'il faut récompenser Brunson, parce que les Knicks, c'est quatrième à l'Est. Et le leader de ces Knicks, c'est Brunson, en fait.
Oui. Ouais, même si, au final, on avait critiqué le début de saison de Julius Randle, mais là, il est depuis quelques mois, là...
le
mois de décembre, il est monstrueux. Et a l'air d'avoir continué en ce début d'année 2024. Donc vraiment, New York devient de plus en plus solide. On parlera après du trade, évidemment. Mais oui, Jalen Brunson mérite totalement sa place. Je suis bien d'accord. Mais du coup, moi aussi, du coup, Maxey est dans mon banc, avec notamment Donovan Mitchell, qui fait pas un début de saison mauvais avec 28 points de moyenne. Donc voilà.
Après, il y a aussi le fait que. On va en parler, je pense, si on parle des forwards. Mais en fait, il y a aussi déjà quelqu'un des Sixers à l'Est, en fait, sur le terrain dans le 5.
Ouais,
et c'est compliqué de mettre deux joueurs de la même équipe dans le 5, hormis si les deux joueurs sont vraiment au-dessus du lot et,
bah, et que l'équipe domine à fond. Ouais.
En soi, mais, il serait premier sinon, indiscutable. Ça vu les stats personnelles, ça pourrait.
Ouais,
sauf que là, on est un peu en méforme, on est sur 3 défaites. Là, ça fait deux semaines où on est moins impactant parce que Joel Embiid est blessé pour l'instant et ne joue pas depuis quelques matchs. Et où, quand il joue, il est un peu diminué. Donc ça n'empêche pas de mettre du 35-10, mais quand même. Donc, je pense qu'on pâtit aussi de ça, de cette mauvaise dynamique en ce moment. Mais si on regarde à la globalité de la saison. Maxi, comme Nico l'a mis dans titulaire, en soi, c'est pas un blasphème. Mais ouais, je comprends. Oui, Nico.
Ouais, le choix a été compliqué en fait entre les trois, hein, parce que comme vous avez dit, Brunson, il fait une bête de saison aussi. C'est vrai que j'aurais pu le mettre au final titulaire, mais en fait, ça s'est joué entre les trois.
Donc, ouais, c'est ça. Après, c'est des choix, enfin.
Ouais.
Après, il y a pas de scandale en fait. En fait, c'est vraiment aussi comment chacun ressent les choses, mais il n'y a pas de scandale à dire que Max est titulaire. Hein, il fait une saison de ouf. Moi, c'est plus le côté pour mes forwards. Moi, j'ai Joel Embiid, on va pas se mentir.
On peut enchaîner sur les forwards. Hein, donc, si tu veux donner les tiens, Vincent.
Alors, je pense que là, pour le coup, on risque peut-être plus d'avoir les trois mêmes.
Je pense qu'on a les trois mêmes.
Parce que pour le coup, en fait.
Oh, Nico, il fait la grimace.
Les trois à l'est.
J'ai un coup de cœur.
Les trois à l'est, c'est chaud de changer. Enfin, pour moi, c'est Tatum, Embiid, Giannis, et il n'y a même pas de débat.
Tous les jours.
Non, mais c'est comme tous les ans.
Il va nous mettre un Bam Adebayo.
Non.
non, mais quoique Bam
a fait une belle saison
cette année. Et pour moi, je pense qu'il va peut-être réussir à choper une place dans le All-Star Game cette année. Bam.
On a tous les trois les mêmes, de toute façon, j'imagine.
Tatum, Embiid, Giannis, c'est nos trois.
Moi, c'est ce que j'ai sélectionné aussi. Mais mon petit quatrième, tu tapes à la porte. il joue en Floride. Mais c'est pas Bam Adebayo, c'est pas Olo Banquero, parce qu'il fait une bête de saison aussi. Et voilà, c'est des mecs qui méritent. Même s'il y a des mecs intouchables au-dessus, mais c'est des mecs qui méritent une place aussi, tu vois.
Ouais. Moi, je suis d'accord avec toi carrément.
Mon quatrième 3,5, tu vois.
Ouais. Après, je pense que, en fait, les trois au-dessus sont tellement un cran au-dessus de tout le monde que eux, ils vont être starters, en fait. Mais par contre, après, je suis d'accord avec toi, Banquero, il mérite d'être All-Star. Avec la saison du Magic, lui, individuellement, la saison qu'il va faire, il mérite clairement d'être All-Star. Après, dans le 5, en fait, c'est trop compliqué par rapport aux trois monstres qu'il y a devant. C'est ça le truc, en fait. Les autres, les trois mecs devant. Puis il y a notoriété et tout, en plus, c'est ça le truc. C'est qu'il y a notoriété et ils sont trop forts. Donc c'est compliqué d'aller chercher une place dans le. Franchement, en forward, t'es content, mais t'essayes juste d'aller chercher une. T'essayes pas d'aller chercher le sac majeur. Hein.
C'est ça, exactement. Et puis de toute façon, en plus, il y a les résultats collectifs, individuels aussi, donc un peu délogé.
C'est ça.
On parle bien, il y a peut-être plus de débats côté ouest. Je vais commencer avec mes deux guards. Sans surprise, il y aura Luka Doncic et Shai Gilgeous-Alexander.
Ouais. Là, au niveau des guards, on est pareil. Et en fait, pour le moment, à l'ouest, c'est les guards. À l'est, c'est les forwards où il n'y a pas trop de débats. Et éventuellement, sur les guards à l'est, on peut un peu débattre. Et sur les forwards à l'ouest, ça débat un peu pour certains.
Moi, je vais vous faire une dinguerie, vous allez pleurer.
Pour au les niveau forwards. Des gardes, les gars, c'est quoi votre troisième choix là, au niveau des guards à l'ouest?
Moi, Anthony Edwards.
Ouais, pareil.
Anthony Edwards.
Et Fox, Anthony Edwards. Jamie Fox aussi en noté.
Parce que, en fait, moi, ça me fait chier de pas mettre Anthony Edwards parce que déjà, de une, j'adore le joueur. Et Minnesota est en haut de la conférence ouest avec une équipe. Et c'est lui le leader, c'est pareil, de cette équipe-là, qui est premier de l'ouest. Mais le souci, c'est qu'en fait, Shai et Luka, ils jouent tellement un niveau au-dessus qu'en fait, on peut pas les déloger. C'est impossible. C'est impossible d'aller chercher les mecs.
À la limite,
mais par contre, là où je suis content, c'est qu'Anthony Edwards va être All-Star, par contre.
C'est un scandale.
C'est scandaleux.
Moi, je voulais juste dire que s'il y en a un des deux que tu peux bouger, c'est Luka, parce que les résultats collectifs sont pas super bons à Dallas. Alors, ceux qui, évidemment, individuellement, il fait un début de saison incroyable. ce qui le met tous les jours titulaire à mes yeux. Mais s'il y en a qui viennent me dire, moi j'ai envie de prôner aussi le résultat collectif avant la stat individuelle, je l'entends et ben, j'accepterai que Lucas parte.
Ouais, tout à fait.
Ouais, Nico. Mais encore une fois, il pâtit du fait qu'il est à Dallas et qu'il est en conférence Ouest. Tu mets le bilan de Dallas à l'Est, il est quatrième, quoi.
C'est comme ça. Tu vois, il sait qu'il joue à la conférence Ouest. Il faut gagner des matchs, c'est tout.
Pour moi, tant que tu es dans la course au play-off, en vrai, pour moi, pour le All-Star, c'est pas si grave. Si tu es trop fort, tu vois.
Ouais, tout à fait. Bah, là, d'ailleurs, c'est ce qui se passe. Hein. Le niveau qu'il a, même s'il est huitième à l'Ouest, on n'en a rien à foutre, en fait. Parce que juste, il joue à un niveau trop fort. Même, enfin... Après, il y a aussi, là, sur les premiers retours des votes, c'est les fans qui votent. Forcément les fans Luka Doncic.
Ah bah oui, Magic, c'est sûr. Déjà t'as tous les Européens et même aux États-Unis tout le monde est fou de lui. Donc,
ah bah oui, c'est clair. Vas-y, bah Vincent, envoie-nous tes forwards à l'Ouest, s'il te plaît.
Alors moi en forward j'ai mis, donc j'en ai un, je pense qu'on aura tous en commun. Hein, il s'appelle Nikola Jokic.
Oui.
Je pense que celui-là on l'a tous en commun et je pense que c'est pareil lui. Après, pour les restes, c'est compliqué. C'est compliqué. Moi, je vais... Dans mon forward, j'ai mis Kawhi Leonard. Juste pour récompenser la saison des Clippers, parce qu'en fait...
Et le fait qu'il joue aussi.
Et le fait qu'il joue, exactement. Kawhi joue et les Clippers sont en haut... Enfin, ils sont quatrième, je crois, à l'Ouest. Donc,
ouais, quatrième.
C'est plus que correct. Là, pour l'instant, ça marche bien. Voilà. On aurait pu parler de Paul George, mais c'est pareil. Paul George, pour moi, c'est pour le 5 majeur en fait. Et après, on sait très bien que j'ai mis les mecs. Arrête.
Attends que je regarde. Pour moi, c'est 9e à l'Ouest et c'est un bilan tout juste à l'équilibre. Non, c'est pas ça.
Le joueur que j'ai mis.
Ouais.
Ouais, clairement.
pile dans.
Alex Shengun.
J'ai vraiment mis LeBron. J'ai mis LeBron. En fait, j'ai mis LeBron parce que c'est LeBron. Mais je ne pourrais très bien ne pas mettre LeBron. En fait, pour moi, si je ne mets pas LeBron, je mets Sengun. Je mets Alperen Sengun de Houston.
Ouais, Nico, vas-y.
Bah, j'ai le même raisonnement que Vince. C'est Jokic, LeBron. Un troisième qu'on va sûrement citer après. Et parce qu'en fait, un All-Star Game sans LeBron titulaire, c'est pas normal, en fait. C'était le meilleur joueur de l'histoire. Il a pas réagi.
Mais si, mais non, mais je réagis même plus parce que c'est normal. Enfin, genre, c'est...
Non, mais voilà, la longévité du mec, il a 40 balais, il roule sur tout le monde, il porte encore les Lakers comme il fait tous les ans. Enfin, c'est LeBron, quoi. Tu peux pas ne pas le mettre titulaire au All-Star Game, c'est pas possible.
Impossible.
Bah voilà, moi, j'ai pas mis.
Mais toi, t'es une merde, toi.
Chou. Mais numéro 4, c'est mon numéro 4 qui tape à la porte. C'est Shengun aussi, parce qu'il fait une bête de saison. Houston, c'est pas si dégueu cette saison. C'est un peu moins bien là qu'au début de saison, mais ça joue encore. Donc, Shengun, il fait une bonne saison individuelle. C'est cool. Donc, voilà.
Bah moi, je n'ai pas mis LeBron.
Après, il y a pas mal de mentions.
Parce que c'est pour pareil, moi... Ah oui, bah forcément.
Donne-nous tes trois, Gus, là, et après...
Alors, moi, j'ai Kawhi, parce qu'il joue, et que les Clippers sont vraiment impressionnants depuis début de saison. 24-13, le bilan, c'est vraiment pas dégueulasse. Et surtout, dans le jeu, j'ai l'impression que, en fait, même depuis le trade d'Harden... Non, je pense que tu sais pas.
Si, je sais que t'aimes.
Depuis le trade d'Harden, en fait, ils ont vraiment trouvé une vraie alchimie, et surtout, il y a une hiérarchie qui n'était pas vraiment lisible avant qu'il arrive, et en fait, ils ont rajouté une quatrième star, et bizarrement, tout s'est orchestré parfaitement. Donc, pour le coup, je suis assez content. Et Kawhi, on sait que quand il joue, il est incroyable, et ça se traduit dans les résultats. Donc, Kawhi, j'ai Jokic, évidemment, parce que là-dessus, il n'y a pas de...
Et après, t'as un numéro 10.
Non. Moi, j'ai mis un Lakers, mais j'ai pas mis LeBron James.
Ah, ok.
Parce que pour moi, j'ai mis Anthony Davis. Oh, ouais.
Moi, non, mais je suis d'accord. En fait, moi, je t'explique mon truc. Il n'y aurait que moi, j'aurais mis Anthony Davis et LeBron James. Sauf qu'en fait, tu peux pas, avec les résultats des Lakers, c'est impossible de mettre deux Lakers.
Bah ouais.
Sauf que dans le Star Game, LeBron choisi, James, ça n'existe pas. Choisis de mettre
LeBron James. Il sera sur le banc.
Mais LeBron James sur le banc, t'as déjà vu ça?
Non, mais moi, c'est mon avis à moi. C'est mon avis à moi. Ça n'arrivera pas, je le sais. Mais je veux pas que... Je le trouve beaucoup plus dominant cette saison que LeBron James. Alors certes, il y a l'âge qui joue, etc.
Et Anthony voilà. Davis, et Anthony Davis, on peut dire un peu le même argument qu'on a pour
Que
Kawhi,
Kawhi,
mais il joue.
Oui, c'est ça.
Il joue.
Et c'est pour ça que je veux le
Et en fait,
récompenser.
non, non, mais c'est sûr. C'est sûr qu'au niveau des stats, mais quand tu regardes statistiquement, LeBron et AD, c'est pas loin d'être pareil. Parce que AD prend un peu plus de rebonds, mais LeBron fait plus de passes.
Ouais, bon, forcément.
Mais c'est vrai que dans l'impact, dans la domination, c'est vrai qu'Anthony Davis, cette année, c'est plus que LeBron, je
Et puis
trouve.
défensivement, il a retrouvé sa grinta de 2020, j'ai l'impression, cette année. Là où l'année dernière,
Ouais.
il pouvait être un peu juste par moment, dû à des problèmes physiques et à ses blessures. Et là, du coup, vu qu'il est à 100% ou quasiment, bah, en fait, ça se traduit vraiment. Je ne sais pas si c'est lui le meilleur contreur de la ligue, mais
Non, c'est Victor.
c'est Victor, mais du coup, il doit être sur le podium ou pas loin. Et
Ouais, c'est
vraiment,
possible.
les Lakers, s'ils n'avaient pas cette défense-là, ça pourrait être vraiment une catastrophe parce que ça attaque pas forcément très bien. Oui, Nico.
Vous dites que LeBron et AD sont dominants, mais par contre, le bilan des Lakers, c'est catastrophique. Hein. Si tu parles de deux mecs qui sont ultra dominants, c'est vraiment que tu as une équipe en bois à côté, quoi.
Ah bah oui, ils ont été touchés par les blessures de ouf et tout. Après, si les Lakers sont
Ouais,
quand
c'est
même pas
sûr,
dans
hein,
une
mais.
situation compliquée. C'est quoi? C'est une situation compliquée pour les Lakers quand même.
Ça va bouger à la trade deadline. C'est sûr que Rob Pelinka, il va nous sortir
Ouais,
les trucs
c'est
de son
sûr.
chapeau. On connaît, de toute façon,
Ouais.
l'équipe qui commence l'année aux Lakers n'est jamais la même qui finit. Donc, après, ça finit en finale, au premier tour, ou peut-être pas en playoff, ça dépend. Ça dépend des années. Donc voilà
Ouais, donc
pour
voilà.
mes forwards. Donc c'est pas dégueu, on peut se refaire un petit bilan. Chacun donne ses deux conférences d'affilée, comme ça fait un petit
Moi,
point.
j'ai une petite.
Oui, vas-y.
Moi, j'ai pas donné mon troisième forward.
Ah oui, c'est vrai.
Il va me mettre Sabonis.
Non. Non,
Non,
j'ai
mais
une
ça se
petite
mentionne.
pareille. C'est un mec qui est indéboulonnable aussi du All-Star Game, c'est KD, en fait.
Oui, on
Ouais.
n'a pas parlé de
C'est
KD
vrai
et
qu'on
c'est
n'y a
vrai
pas
que. Non,
pensé. Après,
non, non, c'est pas
après.
qu'on y.
Mais non,
C'est pas que
mais
j'y ai
il y a
pas pensé,
tellement de
ouais.
mecs. C'est comme là, tu
Ouais.
vois, on a cité plein de joueurs. Il y a une équipe qui fait une saison plus que raisonnable, voire excellente, c'est les Pelicans. Et
Oui, et on
pourtant, on
met
n'a pas
Barton.
cité de mecs. Ouais,
Ouais.
mais
Non, mais
alors.
en fait, c'est des mecs. En fait, le souci de l'Ouest, c'est qu'il y a, y a beaucoup trop de mecs qui ont de la notoriété et en fait qui passeront avant ces mecs-là. Genre LeBron, Kawhi, KD, même Paul George,
Bah oui, il pourrait
Anthony
avoir plus de
Davis.
chance que Brandon Ingram,
En fait,
PG.
c'est des mecs. Exactement. Exactement. C'est des mecs qui sont forts. Hein. Mais en fait, c'est de la notoriété parce que au final, moi, je donne une mention à Sengun. J'en ai parlé tout à l'heure. Moi, je donne une mention à Sabonis. Parce que Sabonis,
Ouais.
les Kings, ils sont plutôt hauts dans la conférence Ouest. Et l'autre, il envoie des triples-doubles. Et il est à 20, 22 points, 12 rebonds, 7 passes, je crois. Enfin, pour un poste 5, c'est quand même pas mal. Il a envoyé un match à 22 points, 23 rebonds. Bref, il est dominant avec les Kings. Et donc, du coup, il y a plein de joueurs qui se mentionnent à l'Ouest au
Même
niveau des
du
forwards.
McCollum.
Ouais,
Ouais,
du
mais
bah ça, c'est
McCollum,
chez les
alors
Guards, justement.
justement,
C'est chez les
ouais,
Guards.
c'est chez les Guards, mais
Justement, les
ça
gars,
reste
je
des
vous.
mecs.
Parce que vous avez mis en avant le problème de New Orleans, des Pelicans, mais le problème, c'est qu'individuellement, tu n'en as aucun qui dépasse les 22 points. Alors,
Ouais,
avec
c'est
ce
vrai.
bilan-là, tu mets, par exemple, Ingram en met 26 au lieu de 22. Alors, c'est plus la même.
Là, ça discute, ouais, tout à fait.
C'est plus la
Ouais,
même.
je sais même pas en vrai. Je sais
Et
même pas en
puis
vrai.
on n'a pas un Zion dominant cette année.
Ah non, non, bah
C'est
non.
vrai.
Et parce qu'en fait, on sait très bien, Zion dominant, c'est presque titulaire All-Star. Hein.
Ah bah
Si Zion, il met 26 points par match, qu'il met des tomahawks à tout va, qu'il explose les mecs quand il joue, bah, il est titulaire All-Star Game.
après, il est pas
Bah,
dégueulasse, hein. Il est en 20,
non,
il est
non,
en
bien sûr, non, non.
22-6-5, on va pas se plaindre.
Ah non, mais
Mais non,
c'est
ça
pas
va.
le Zion d'il
Non,
y a
non.
2 ans.
Je dis
Il
pas
est
que
pas
Zion est
blessé en
nul,
plus.
mais en fait, le collectif des Pelicans
Et incroyable par contre.
est plus incroyable que justement quand on a vu Zion vraiment performer individuellement. Là, c'est vraiment le collectif qui performe.
Et puis la
Et du coup, en
défense.
fait, il est un peu plus en retrait par rapport à ça. Mais après, je dis, il fait quand même. Voilà, c'est quand même un joueur ultra important.
Ouais, c'est
Il
clair.
a vraiment. Il connaît
Après,
les stats, comme tu l'as dit, et puis voilà.
on dit ça, mais il y a une année aussi où il y a une équipe qui était hyper collective sans des grosses stats. Et ils ont eu trois All-Stars, c'était les Hawks, je sais plus quelle année.
4, 4 All-Stars, 4
C'était
All-Stars.
quatre. Voilà.
Ils ont eu
C'était.
4 All-Stars.
Attends,
Non,
bah alors,
c'était
petit
en.
jeu, donnez-nous les All-Stars. C'était en 2014.
Ouais, moi je
T'avais
sais.
Millsap.
Paul Millsap, Al Horford, Jeff Teague et Cal
Et
Corver.
c'est Corver.
Merci
Oh oui,
beaucoup.
Corver. Oh putain.
Merci.
J'avais Teague, mais j'avais pas Corver. Parce
Ashton
que je
Kutcher, Cal Corver.
suis.
Oh
C'est
là
vrai. Tellement il lui ressemble.
Il avait
Parce
la
que.
petite mèche et tout là.
Ah, mais il tournait. Ouais, mais il était à 50% de 3 points en
Aïe.
tirant 5 par
Oh,
match. Et
c'était
qu'il fait que
incroyable.
d'envoyer comme un porc. Ah, ouais,
Parce
c'était
que
terrible.
petit spoil. En fait, je suis en train de préparer un gros quiz pour toute l'équipe. Et c'était une des questions.
Ah merde. Bah nous, on l'aura révisé.
Bah, j'ai galéré, Rémi.
Alors attends, par contre, je sais plus si c'est 2014 ou 2015. Est-ce que ce serait pas la saison 2014-2015?
C'est peut-être 2014-2015, ouais.
Alors attends, je vais.
Ah, de toute façon,
ouais, c'est ça, c'est 2014-2015. Parce que du coup, c'est la saison où ils font 60 victoires, 22 défaites avec Budenholzer en coach.
Avec... Ah, oui,
ils font premier à l'Est. Enfin, au All-Star Game, ils étaient premiers à l'Est.
Bah, ils finissent premier.
Ah bah, c'est pour ça qu'ils avaient eu des All-Stars aussi. Parce qu'ils faisaient une saison ouf.
Saison de fou, je suis sur les chiffres. Alors attendez, parce que moyenne de points des joueurs. On peut faire une petite aparté, hein, parce que pour le coup, c'est pas trop. Mais c'est génial ça. Il y a 6 joueurs qui dépasse les 10 points, et en fait, c'est juste hyper collectif.
Là, oui, c'était un collectif de
ouf. Ouais, mais ça jouait alors, super
gars,
bien.
Les gars, je vais vous faire rêver. Donc, parmi ces 6 joueurs qui dépassent les 10 points, on a Dennis Schroeder, Jeff Teague, Al Horford, Kyle Korver et Paul Millsap, d'où les 4 All-Stars. En revanche, il y a un joueur qui dépasse les... Mais qui n'est même pas juste à 10, hein, il est à 13 points de moyenne. Essayez de le retrouver, les gars, jamais vous allez...
Il n'est pas titulaire, lui. Il était pas All-Star.
Il est titulaire. Il est pas All-Star.
Titulaire à cette époque-là.
Attends,
c'est sa meilleure moyenne. Il a une saison un peu mieux.
T'as des petits indices ou pas?
Joe Johnson.
Non, c'est pas Joe Johnson.
Oh putain, j'ai un flash.
Il me semble que Joe Johnson sort du banc. Ouais, Nico?
Non, je te demande des petits indices.
Attends, dis rien. Il n'y avait pas Kirk Hinrich à cette époque-là?
C'est pas lui.
Putain.
Non, il joue encore aux Bulls.
Parce que ah ouais, je sais plus, il y a une saison, il joue à Atlanta.
Drafté en 2009 par Memphis, au premier tour. Carrière de 11 ans, il n'est plus en NBA, d'ailleurs.
Avec les cheveux longs, là?
Tu t'en approches.
Oh putain, mais je sais plus son nom.
Avec les cheveux longs? Un blanc?
Non, un Renault avec des grosses dreads.
Andy Carroll? C'est pas ça?
Non,
un Démarré Carroll.
Oui, c'est ça.
Putain.
Démarré Carroll, ouais.
Je savais que c'était Carroll, mais je me rappelais plus de son nom.
Mais lui, il était pas mal. Hein. C'était un bon joueur d'équipe. Hein. C'était un bon player.
Ouais.
Il ressemblait un peu à Jay Crowder.
Ouais, c'est un peu le style.
C'est vrai. Bah du coup, voilà, c'était la petite aparté sur les Hawks de 2015. Merveilleux.
On parlait All-Star Game.
Allez les gars, petit bilan de ce que vous mettez. Vous sortez vos starters de chaque conférence. Comme ça fait un petit bilan pour tout le monde.
Moi, à l'Est, du coup, j'ai Brunson et Haliburton en guard. Et en forward, Tatum, Embiid, Giannis. Et à l'Ouest, Shai et Luka en guard. Et Kawhi, Jokic et LeBron sur le...
En starter, parfait. Nico
à l'Est, en guard, j'ai... Tyrese Haliburton et Tyrese Maxey, et en forward Giannis, Joel et Tatum. À l'ouest, Luka et Shai sur les postes arrière, et à l'intérieur, LeBron, Jokic et KD.
Pas dégueulasse. Et du coup, moi à l'est, j'ai Brunson, Haliburton comme Vincent, Tatum, Giannis et Embiid sur le front court. À l'ouest, j'ai Luka, Shai Gilgeous, Alexander sur les guards, et en forward, j'ai Kawhi, Jokic et Anthony Davis. Voilà. Donc j'ai blasphème pour notre cher LeBron, mais vous m'excuserez, il faut récompenser ceux qui jouent bien.
Oh, c'est pas grave, c'est pas toi qui fais les votes.
Bah non.
LeBron, il sera quand même All-Star Game, je m'entends.
Ah, mais il sera titulaire.
Titulaire, il sera capitaine. Ah non, il n'y a plus de capitaine. C'est Est-Ouest, on revient à un format Est-Ouest.
D'ailleurs, très bien ça.
Ouais, sans capitaine, c'est normal du coup. Alors on revient à format SOS.
Allez, on passe au prochain sujet, les gars. Le 30 décembre, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, il y a eu un trade qui est tombé, une Vosges bombe qui a envoyé OG Anunoby au Knicks contre R.J. Barrett, Emmanuel Quickly, des tours de draft.
Ouais.
Il y avait un autre joueur aussi, un fond de banc.
Non, c'est de l'autre côté qu'il y a deux joueurs. C'est qui carry avec Giannis Nobi.
Ah yes, c'est ça.
Il y a donc Karim avec Ananobi, il y a Precious Achiuwa
ouais.
et Malachi Flynn.
Malachi Flynn,
ouais. Yes, ouais, je sais pas comment on le dit.
Oui, de toute façon, il jouera pas, donc c'est
oui, de toute façon, il joue pas beaucoup. Ouais, il sera, c'est bien, il sera copain avec Evan Fournier.
C'est ça, exactement.
Moi qui m'étais dit, le départ de Quickly va peut-être donner Fournier, en fait, il a juste joué le jour où il n'y avait pas de joueur, du coup. C'est...
Ouais, le jour où il y avait des blessés. Il
a joué non, le jour où le trade a eu lieu,
ouais,
et que du coup il y avait Barrett et Quickly pouvaient pas jouer, mais les autres n'étaient pas encore arrivés, là, il a joué quand même.
Je vois bien Tibbs le prendre par l'épaule. Bon alors, mon Evan.
Allez.
Donne quelques minutes ce soir.
Allez, viens jouer.
Mes coachs, on n'est que 5 à jouer. Ouais, c'est pour ça.
Tu sais, c'est le 14e mec de ton effectif en départ, tu sais, qui joue le vieux match entre deux matchs de couple le week-end.
Le papy qui s'entraîne jamais. Le papy qui s'entraîne jamais.
Ouais, c'est ça. T'as deux matchs dans le week-end parce qu'il y a la coupe en retard, tu sais.
Oh là là.
Et c'est le mec qui joue jamais qui vient faire le 5e. Ah, j'adore ça. Ça, c'est la basket qu'on aime, ça.
Bah oui, c'est vrai. On a tous connu ça. Par contre, du coup, on va revenir à ce qui nous intéresse. Donc, ce trade tombe en fin d'année. Depuis, les Knicks ont joué 5 matchs. Et à votre avis, ça se traduit en quoi ? 5 victoires, 0 défaites. Est-ce qu'Oji y est pour quelque chose ? Évidemment. Vincent, toi qui regardes tous les matchs des Knicks...
Je regarde pas tous les matchs des Knicks, mais oui, je suis les matchs des Knicks.
Bien, je t'en prie, si tu peux nous parler un peu de ce qu'a changé Oji Anunoby...
En fait, il amène une dimension qu'on n'avait pas déjà défensivement. Juste ça, en fait. Juste ça, ça change tout. Et c'est tellement un joueur de collectif. C'est pas un joueur qui veut attirer la lumière sur lui. C'est pas un joueur qui va vouloir... Et c'est pas forcément un joueur qui a aussi besoin du ballon, en fait. Et c'est ça qui est ultra intéressant pour les Knicks. C'est qu'en fait, avec Jalen Brunson, qui a déjà beaucoup la balle en main, avec Julius Randle, qui a aussi beaucoup la balle en main, d'ajouter un mec comme ça qui va faire un... En fait, il fait clairement le sale boulot. C'est vraiment...
Ah bah, gros taf défensif.
Là, il va prendre les meilleurs joueurs en face. Ouais. Et en attaque, il va réussir à scorer, mais sans avoir la balle, en fait. Il va attendre de créer pour lui. Il va pouvoir mettre des tirs ouverts. Il va jouer sans ballon. Et il va réussir à mettre des
en transition et galop.
Près du cercle et tout. C'est un joueur ultra athlétique, court, qui est vite au cercle. Et en fait, du coup, bah, ça change tout pour les Knicks. Là, Thibodeau, c'est du pain Mehdi, l'arrivée de Gian Unobi pour lui. Pour le coup, il y a Precious Achiuwa qui est arrivé. Je pense que c'était un peu pour compenser la blessure de Mitchell Robinson jusqu'à la fin. Donc forcément, Hartenstein s'est trouvé à être dans le 5 majeur. Il réussit. Pour l'instant, il est très bon depuis la blessure de Robinson. Depuis qu'il est passé dans le 5, il a fait 2 matchs de suite à plus de 20 rebonds. Il fait un chantier. Enfin, défensivement, il est présent. Offensivement, on lui demande pas de mettre 25 points. Par contre, d'aller chercher les rebonds offensifs, claquettes, de mettre des petits paniers près du cercle, et ça, il fait très bien. Et du coup, pour l'instant, les Knicks, ça roule super bien. Et en espérant que ça continue, on est sur 5 victoires de suite. Et pour contre des équipes... alors, il y a une fois contre les Sixers, mais... Une fessée contre les Sixers.
J'ai applaudi à la fin, tellement vous avez bien joué.
Une fessée contre les Sixers, il y a eu... Attendez, je reprends mes notes. Les Wolves, le premier match, le 1er janvier, c'était les Timberwolves, qui sont quand même premiers à l'Ouest. Et c'est pareil, il y avait 20 points d'écart. Alors au final, après, derrière, on baisse un peu de régime et on match et on gagne pas si facilement que ça. Mais c'est des matchs où là, on a mis des écarts, en fait. Là, contre Portland, cette nuit, on a mis une branlée. Contre les Sixers, on a mis une branlée. Contre les Wolves, on aurait pu... Voilà. Mais c'est intéressant aussi de voir la différence. Depuis qu'il est arrivé, on défend plus, on encaisse moins de points. Et en attaque, par contre, ça roule toujours autant parce que Jalen Brunson, il fait toujours son taf. Julius Randle, comme on l'a dit tout à l'heure, il a fait un énorme mois de décembre. Et là, pour le début de l'année, ça commence à repartir de plus belle. Donc, tant mieux. Donc voilà, hein, tant mieux. Les Knicks se portent à merveille et je suis content de ça.
Nico ?
Alors, j'ai deux petites anecdotes là, enfin une anecdote sur Mitchell Robinson. Tu disais qu'il était blessé et les Knicks, ils ont refusé la prime blessure pour recruter un remplaçant parce qu'il serait attendu au retour de la fin, enfin avant la fin de la saison régulière. Donc ça, super nouvelle pour les Knicks à l'approche du play-off.
Potentiellement play-off, Mitchell Robinson de retour.
Voilà, exactement. Donc ça, c'est cool. Et juste un petit aparté, je suis déçu que ce trade sape la dynamique de Quickly, qui était sur une bonne saison.
Bon, mais par contre,
Il aura plus de temps de jeu, ça sera bien pour lui, il va pouvoir monter, mais il était dans une équipe déjà qui jouait quand même quelque chose, ce qui n'est pas le cas de Toronto, c'est dommage. Mais Oji, là, depuis qu'il est au Knicks, point de vue statistique, je parle, hein, il est sur du 12-13 points, 5 rebonds, une passe, mais 53% au shoot sur les 5 matchs, là, et un plus-minus de 20, plus de 22 en moyenne.
L'impact du mec est énorme. Il a trop d'impact. Après, en ce moment, on a surtout. Alors, il y a Oji qui est arrivé, il y a Julius Randle qui fait du Brunson. On a aussi DiVincenzo qui a une grosse période là. En ce moment, il est vraiment bon aussi. Au niveau du scoring, il a un vrai rapport. Et Hartenstein qui fait bien. Donc en fait, on a un 5 qui tourne vraiment bien et les rotations pour l'instant. En fait, c'est pour ça que les Knicks tout roule quoi.
Donc voilà pour ce trade. Côté Toronto, en soi, ça peut redonner qu'une dynamique à une équipe qui est un peu dans l'embarras. 15 victoires pour 23 défaites. Depuis le trade, en soi, c'est un bilan qui est équilibré. Ce que j'aime bien, c'est que RJ Barrett prend ses responsabilités là-bas. Son retour au Canada, dans son pays, lui fait du bien. J'ai l'impression qu'il est plus en confiance que peut-être que le fait qu'il ne soit pas à jouer au Madison Square Garden tous les soirs.
Moins de pression, peut-être. Un peu.
Ouais, à ce niveau-là, justement. Et du coup, je le trouve libéré. Alors certes, les Toronto Raptors ont perdu une de leurs pièces maîtresses aussi. Mais en attendant, ils ont trouvé deux bons joueurs de devoir et qui peuvent scorer. Donc ça peut être aussi bénéfique pour eux pour la suite. Je pense que juste la seule chose, ils gagnent en attaque, ils perdent en défense. Vu ce qu'ils avaient déjà dans leurs assets, peut-être que c'est un moindre mal parce qu'en fait, ils ont de quoi couvrir quand Quickly est sur le terrain ou quand RJ Barrett ne fait pas les efforts qu'il faut alors qu'on sait qu'il est capable. Mais globalement, en fait, c'est un peu un win-win. Toronto avait besoin de cet élan quand Siakam fait un mauvais match ou quand Scottie Barnes est un peu en deçà. Et du coup, ils ont deux autres joueurs pour prendre le relais au scoring et ça peut être bien pour la créativité. Ça ramène aussi un peu de spacing parce que les deux sont capables de shooter. Donc pour le coup, ça reste une bonne option et peut-être intéressant pour Toronto. Voilà. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais le coup de gueule du coach en sortie de match face aux Lakers.
Ah non, j'ai pas vu.
Non, moi, vu.
Du coup, en fait, dans le dernier quart-temps, les Lakers ont 23 lancés et Toronto n'en a que 2. Et du coup, ils perdent le match d'un point, je crois, ou d'un match très serré. Et
c'est du coup, en conférence,
il a dit c'est la honte. C'est pas la honte pour les Lakers. Il a dit c'est la honte des arbitres, c'est la honte pour la ligue. Comment vous voulez vous qu'on joue? Nous aussi, on a des stars chez nous. On n'est pas respectés et tout. Et il gueulait, il était tout rouge.
Mais il a raison.
Mais il a raison en soi. Il a dit shame to the NBA, shame to the ref. Il était hors de
lui. Il a joué contre LeBron James, donc il va être viré demain par contre.
Bah certainement qu'il va peut-être avoir des sanctions. Je pense qu'il va prendre une amende vu comment il a parlé. Mais bon, tu vois, c'est vrai qu'il met en avant le fait que Scottie Barnes est un calibre All-Star, sauf que là, il n'y a pas le bilan, donc il ne le sera jamais. Mais c'est un joueur hyper important et c'est une star dans cette ligue. Et il n'est même pas respecté, il a eu que 2 lancers sur le match, quoi. Alors qu'il fait que de driver au cercle face à des mecs, il prend contact sur contact. Et... Donc voilà, c'était le petit coup de gueule du coach des Raptors. Donc voilà, pour Toronto. Des mauvaises nouvelles... Oui, Nico, pardon, excuse-moi.
Avant de finir, là, sur la page Knicks... Le calendrier, je sais pas si vous avez regardé un peu.
Pas du tout.
C'est de l'abordable de chez abordable. Là, les prochains matchs, donc il y a Dallas. Alors, vu que Luka est blessé, ça va. Memphis, tout le monde est blessé. Orlando, match dur.
Ouais.
Houston, ça peut le faire, il n'y a pas de problème. Washington, Toronto, et après j'ai mis 3 petits points. Donc le calendrier est plutôt abordable pour les Knicks. Je pense qu'il faut profiter là, de la dynamique.
Ouais, tout à fait.
Et se placer en tête.
Ouais, il faut prendre les victoires.
C'est ça. C'est ce que je voulais dire.
C'est bien. Moi, je pense que si l'objectif des Knicks, c'est de finir dans les 4 premiers, c'est réalisable.
Avantage du terrain en playoff, premier tour, ouais, ça me semble bien.
Je pense que c'est le but. Je pense que c'est le but. Moi, ça me va. Quatrième, ça me va.
Les bon, trois, un petit les game 7 au Madison.
Les trois équipes qui est au-dessus, c'est trop compliqué d'aller chercher.
Ah oui, il ouais, y a un petit écart quand même hein, dans la conférence.
Dans la conférence, il y a un petit écart entre ces trois équipes et le reste derrière.
Ah mais tu profites des blessures des mecs en haut.
Ouais, ouais, c'est sûr.
Genre Philly, par exemple. L'absence d'Ed Bead qui traîne un peu. Tu t'enchaînes les victoires, tu peux revenir.
Non mais pour le coup, il y a moyen. Même Toronto, en soi, on dit qu'ils sont à la ramasse parce qu'ils sont 12e, mais ils sont qu'à 2 victoires de la 10e place, donc potentiellement le play-in peut être accroché. Je pense que
ont des matchs en avance. Ils ont des matchs en avance sur les 10e, donc ils ont plus de matchs que ça. Mais...
Oui, mais si t'as même 3 victoires, vu le match le nombre de matchs qui reste,
oui, c'est sûr.
Ça peut accrocher un play-in, et c'est aussi ça l'objectif de Toronto, je pense, c'est d'aller titiller déjà en play-off, déjà en play-in, et pourquoi pas finir en play-off derrière. Du coup, des choses qui sont moins marrantes, parce que il faut bien des mauvaises nouvelles en NBA de temps en temps. Fin de saison pour Ja Morant, qui s'est blessé à l'épaule sur un entraînement. 6 victoires et 3 défaites depuis son retour de suspension. On rappelle qu'il avait été suspendu pendant 25 matchs pour des raisons que vous connaissez. Hashtag boum boum pam pam. Oui, Nico ?
J'étais pas au courant de ça.
t'es con ou quoi ? Ja Morant, il avait sorti des guns. Il était
Ja Morant, pardon, j'ai cru que tu parlais de Kristaps Porzingis.
Comment Ja Morant et Kristaps peuvent se ressembler?
Parce que moi, j'ai pris les blessures, ce que je t'ai dit en off. En fait, j'ai regardé les blessures de toutes les équipes et mon premier, c'était Porzingis. Mais j'étais en train de me concentrer là-dessus.
C'est pas grave. Bon, bref, on parlait de Ja Morant. Donc, depuis son retour, Memphis retrouvait un peu de couleur avec 6 victoires, 3 défaites. Il avait repris le chemin pour avec des lignes d'All-Star hein, avec 25 points, 6 rebonds et 8 passes. Malheureusement, fin de saison. Memphis, je pense que ça va dégringoler et ça va rien tenter cette saison. C'est une équipe qui avait très mal commencé sans lui et je pense que cette dynamique va vite reprendre le dessus.
Ouais, Vincent. Et encore plus parce que coup du sort, Marcus qui fin de saison aussi.
Ah ouais, j'ai vu l'absence 6 semaines, moi. Ou 6 matchs.
Donc, 6 semaines, pardon. Pas la
c'est
fin de saison.
6 semaines.
6 semaines, ouais, 6 semaines. Donc, il a déjà été blessé. Ja Morant se blesse. Là, il revient. Il se reblesse. Donc, là, les Grises, ça risque d'être vraiment compliqué. Ouais. Je pense que là, en c'est saison ça, oubliée. Ça joue le tanking.
En plus de ça, t'as Jaren Jackson Jr. qui a des problèmes de blessure aussi. Brandon Clark, pareil. Donc je pense
que Steven Adams
oui, qui est
déjà ça s'était annoncé depuis avant la saison soldat important
ça te fait trois joueurs quatre joueurs importants qui du coup sont pas là dans ton effectif
t'as quasiment quatre mecs de ton 5 qui sont pas là quoi
ouais c'est ça
donc c'est mort
ça va tanker sévère côté Memphis. C'est cool. Moi, ce que j'aime bien dans ce truc-là, c'est que ça donne une place pour une nouvelle équipe potentiellement dans les playoffs, quoi. Donc, équipe qui était là depuis 3 saisons, qui s'en va, forcément, ça peut mettre la lumière sur pas mal de petites équipes qui montent.
Pour l'instant, c'est Houston qui profite.
Et oui, par exemple. Et ça, c'est intéressant. Du coup, oui, on parlait de All-Star Tyrese Haliburton. Il y a une image qui nous a fait un peu flipper. Je sais pas si vous avez vu sa glissade. Passe à je sais plus quelle équipe, mais c'était il y a deux
Boston.
Jours.
Boston.
C'était contre Boston.
C'était Boston, ouais. C'est ça.
Ah oui, c'est vrai.
Et
c'est
d'ailleurs, il me semble que Indiana gagne ce match quand même. Mais il n'y avait pas Tatum qui jouait.
À vérifier, j'ai pas l'info.
Ouais, mais c'est sûr, ouais, je m'en rappelle en fait, c'est sûr. C'est sûr que Indiana a gagné le match 130 à 128, je crois, un ou deux. Ça s'est joué dans les dernières minutes. Mais Tatum n'était pas là à Boston et Haliburton s'est blessé, ouais. C'est ça.
Donc cette blessure en soi, elle faisait un peu flipper parce qu'au vu des gestes et de comment ça s'est passé, ça faisait un peu peur. Au final, rien de très grave, c'est juste une élongation musculaire. Donc il sera réévalué dans 2 semaines et potentiellement présent donc pour le All-Star Game qui se déroule en mi-février. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et pour Indiana qui fait une super saison.
Ouais. Pour Indiana, parce que c'est à Indiana le All-Star Game, ça me ferait vraiment chier qu'il y soit pas.
Et puis même au-delà du All-Star Weekend. Indiana, saison, a vraiment des choses à faire valoir dans cette conférence Est. Et si tu perds forcément à Haliburton, les objectifs sont revus à la baisse. Donc voilà. Et Nico, du coup, on voulait juste parler de ces deux-là, pas de tous les blessés de la ligue, mais merci d'avoir
Ouais,
fait tes devoirs.
j'en ai plein là. Tu peux y aller, je suis prêt pour tout là.
Par contre, je veux bien l'info sur Porzingis, parce que du coup, c'est un joueur important quand même, et j'avais pas suivi.
Il a une contusion, il est absent quelques matchs.
Ok.
C'est pour ça que j'avais pas capté ton truc. En absent de taille, du coup, vu que j'ai fait mes devoirs, je balance deux, trois noms.
Vas-y, vas-y.
On a déjà, au niveau de Détroit, déjà que la saison est catastrophique. Il y a Kate Cunningham qui s'est claqué le genou. Donc, bah, nickel, hein.
Bon, saison merdique jusqu'au bout.
Bah
Bah
oui.
ouais, c'est clair. Et pour les Warriors qui sont pas en forme non plus, Chris Paul qui s'est fracturé la main gauche.
Ouais. Ah, ouf.
Je rappelle que c'est une fin de dynastie hein, côté Warriors.
Et je rappelle que du coup, les Warriors, il
Je
y a eu
remets le
une.
couteau dans la plaie.
J'aime bien.
Je rappelle aussi que les Warriors, j'ai vu une tout à l'heure passer, que le GM des Warriors a dit que tout le monde était transférable, sauf Stephen Curry. Voilà.
Oh, ça va bouger.
Ça
Ça
risque
va
de bouger
bouger.
aux Warriors.
Mais il y a des mecs à Toronto qui sont pas loin d'être disponibles, non? Genre du Pascal Siakam, des choses comme ça.
On verra bien.
J'aimerais
On
bien voir
verra bien.
Pascal bouger, perso.
Mais je pense qu'il risque d'y avoir quelques dingueries avant la trade deadline.
Ah, mais c'est certain. Parce que les Lakers vont vouloir bouger et ça va bouger de partout, ça c'est certain. Et on sait que quand les Lakers ils commencent à faire des trades comme ça, c'est avec plein d'équipes. Donc ça risque d'être intéressant. Les Warriors doivent aller accrocher une place en playoff, donc ils vont devoir faire des moves. À l'Est, qu'est-ce qu'on a aussi de Miami qui est pas vraiment au top de sa forme. Ça prend des wins quand même, mais il y a pas mal de blessés. Peut-être qu'il y a des choses qui vont bouger. Et après, en soi, à l'Est. Ça m'a pas l'air de vraiment être Atlanta qui est décevant. Peut-être qu'ils vont tenter quelque chose aussi. Mais ouais, globalement, les gros moves, ça va être les Lakers, les Warriors, Toronto qui a plus rien à perdre du tout. Et c'est tout hein, en vrai. Je pense que ça va s'arrêter là. Peut-être Dallas en vrai, si jamais ils voient que ça reste compliqué, ils ont peut-être le contrat de Kyrie à filer, hein, même s'ils viennent
Ah,
de le
c'est vrai.
prolonger.
Tu
Ah
penses
bah il est peut-être pas
qu'il...
transférable d'ailleurs la première année, donc je t'ai dit peut-être des
Ouais, c'est
blessés.
possible. Mais dans tous les cas, si Kyrie n'est pas transférable, ils n'ont pas de marge de manœuvre.
Ah bah non, bah,
Là,
c'est
ils ont
tellement
deux
flingué
contrats
autour.
super max au-dessus, c'est mort.
C'est clair, c'est clair.
Ouais, c'est sûr.
Donc voilà, je voulais juste qu'on parle vite fait de notre cher Wembanyama, qui fait vraiment une saison exceptionnelle, tout le monde peut le dire. C'est un constat, hein, c'est même pas un avis, en fait, c'est juste le gars est vraiment trop fort, il domine, déjà. Donc tant mieux pour le basket français. La petite question, c'est qu'en fait, est-ce que Popovic va essayer de le faire jouer plus de 25 minutes par match?
Bah, moi j'aimerais bien en fait. Je pense que toute la Terre aimerait bien en fait qu'il
Même
joue
Wemby, il
30.
aimerait bien.
Ouais, en
Ben ça se
fait,
voit qu'il est
c'est.
frustré.
Bah ouais, parce qu'en fait ça frustre tout le monde en fait. Vraiment, là vraiment, moi je suis plus au point de pas voir Wemby jouer 35 minutes. Vraiment, ça me casse les. Voilà, hein, pour être poli, je vais pas le dire, mais c'est énervant dans le sens où en fait le mec quand il est sur le terrain, ça te change. Et en fait, si tu joues 35 minutes. S'il joue 35 minutes, et ben en fait, ça se trouve, les Spurs, et au lieu d'avoir 3 ou 4 victoires là, et ben ça se trouve, il serait à 12, en
Bah,
fait.
c'est possible. Alors moi, je rejoins un peu enfin, je rejoins totalement ton avis, mais je comprends le fait qu'il le protège.
Mais bien sûr, moi aussi,
Et c'est
je comprends tout
là
à fait.
où j'aimerais bien voir cette variante, c'est que quand les Spurs sont devant, fais-le jouer normalement, parce que c'est toujours bien d'aller chercher quelques wins, sauf si ton objectif c'est de tanker. Bah voilà, je pense qu'on a compris que les Spurs et le management voulaient pas forcément gagner des matchs, d'accord. Sauf que quand le match est serré et que t'es devant, faut que t'essayes de le faire jouer. Le gars doit briller en fait. Il est fait pour
Ah
ça. Et c'est dommage parce qu'en fait, tu es en train de frustrer ton joueur qui potentiellement, bah, en fait, ça se trouve, il va mal le prendre. Alors, certes, c'est sa première saison, mais en fait, le gars est tellement fort qu'il a envie tout de suite de performer et de montrer ce qu'il est capable de faire. Sachant qu'il y a eu déjà en 2-3 mois, là, il y a déjà eu une réelle progression dans son jeu, dans ses choix de tir et tout. Donc, il y a une maturité qui est hyper intéressante et surtout qui arrive très tôt. Et en plus de ça, bah, tu vas fâcher ta star. Et autour de lui, j'ai l'impression que y a de la frustration pour tout le monde, en fait. Parce que les joueurs, des fois, ne lui donnent pas la balle alors qu'il est sur le terrain. Alors qu'il y a des mismatchs qui sont clairs, réels, identifiables, identifiés. Et on lui donne pas la balle. Je pense notamment à Sohan qui a été vite écarté de ce poste de meneur. Parce qu'en fait, on a bien vu que le plan de faire un 5 majeur hyper grand, ça marchait pas forcément quand le mec ne sait pas passer un ballon. Mais ouais, ça, moi je suis assez déçu de comment le dossier Wemby est géré aux Spurs. Nico?
Moi, je vais vous faire l'avocat du diable.
Vas-y.
Parce que je pense que, comme vous l'avez dit, tout le monde est frustré, tout le monde a envie de voir Victor jouer 35 minutes et de marcher sur tout le monde. Sauf qu'en fait, ce qui se passe, c'est que rien qu'en 25 minutes, déjà, il est rookie de l'année. Ça, il n'y a pas de débat.
Non, il y a Chet, le bilan et tout.
Ah, c'est discutable, je
Non,
pense.
non, parce qu'en fait, au niveau, je pense que ça reviendra à Wembanyama, parce qu'en fait, niveau statistique, il est numéro 1 partout, sauf au niveau des passes où il est quatrième. Et en fait, pour moi, c'est le meilleur de sa classe. Ça, après, si tu veux débattre pour Chet, il n'y a pas de problème. Mais surtout, en 25 minutes, le mec, il domine. Derrière, tu as des problèmes au niveau de son gabarit,
Oui,
qui
forcément, sujet aux
est encore
blessures.
sujet aux blessures. Donc, tu le fais pas jouer. Si tu le fais, imaginons jouer 35 minutes par match et au final, il se blesse. Qu'est-ce qui va se passer? Bon, déjà, le tanking, je pense qu'il est à peu près avéré pour les Spurs dans tous les cas. Mais déjà, ta saison, elle est finie. Et il n'y a plus d'attirance sur les Spurs jusqu'à la fin de la saison. Et en plus de ça, d'un point de vue personnel pour Wemby, il y a les JO. Donc je pense que lui, il est frustré de ne pas jouer le soir parce qu'il est dedans et tout. Mais par contre, tu lui dis, mec, tu joues que 25 minutes. À la fin de la saison, tu es rookie de l'année. On a un bon spot de draft. Pour pourquoi pas aller te faire un petit duo avec Alexandre Sarr à la fin pour la nouvelle saison. Et en plus, t'es en forme et t'es prêt pour les JO, je pense qu'il signe tout de suite. Tu vois? Le
Le
produit
mec
me plaît.
a vraiment bossé. Ok.
Non mais c'est
Non.
vrai. Non
Oui,
mais
tout à fait, je suis d'accord
pour le
avec
coup,
toi.
moi
Mais
j'aimerais bien qu'il tourne à 30 pions, 25 rebonds par match et 10 contre.
après, je
Sauf
pense que
qu'en
ça
fait,
va arriver. En fait, je pense.
il y a trop d'enjeux pour les Spurs et pour Wemby sur cette saison, tu vois.
Ouais, mais dans ces cas-là, en fait, tous les ans, du coup, tu te dis la même chose.
Non, parce que tu as des mecs qui sont numéro 1 de draft et qui n'ont pas le physique de Victor et qui sont déjà moins sujets aux
Non, mais je veux
blessures
te dire tous les
et
ans
plus
pour Victor,
protégeants.
tu. Justement, ça veut dire que pour Victor, tous les ans, tu te dis la même chose. Tous les ans, on va se
Non,
dire,
parce
bah ouais, mais
que
il est fragile, machin.
là tu regardes Chet Holmgren qui a fait OK un an off parce que il était blessé en début de saison, ils ont préféré le protéger toute l'année. Tu regardes physiquement déjà, le gars, il a quand même pris comment dire? Il est déjà physiquement un peu plus prêt à encaisser que Wemby, tu vois. Moi, c'est mon point de vue. Je pense qu'en un an, en jouant et tout, en le protégeant, déjà physiquement, pendant un an, il va s'endurcir déjà. Et après, dans les années qui suivent, bah après, c'est tout droit, mec. Parce que si tu te fais pas une blessure à la con quand t'es dans tes 2 premières années, on va dire, et bah en fait, derrière, tu vas être physiquement prêt, comme un peu Yanis, tu vois, quand il est arrivé, il était tout fin, maintenant c'est un monstre. Et ben en fait, il marche sur tout le monde et il n'y a pas de problème de blessure. Donc pour moi, Wemby, c'est vraiment un projet à long terme. Et sur cette année, il y a vraiment trop d'impératifs personnels et pour les Spurs qui font qu'il faut le préserver, tu vois. Mais j'ai envie de le voir jouer 35 minutes comme vous.
En fait, là où tu m'as convaincu, c'est le fait de. J'avais pas du tout pensé au fait que Wemby aura la dalle pour les JO et sera prêt
Ah bah.
physiquement pour ça. C'est vrai que je me posais que la question pour les Spurs, mais effectivement, en fait, j'ai plus rien à dire. Alors, il n'y a pas de question. En fait, c'est très bien
Et
joué. C'est très bien fait comme ça, en fait.
en plus de ça, si tu te récupères un top 3 à la draft et que tu vas choper, là on parle d'Alexandre Sarr parce que c'est Cocorico, mais un autre
Bah, pour
mec qui
l'instant, dans
est.
les mock drafts, il est premier, Alexandre.
Ouais, et physiquement, il
Ah,
est
il a
NBA
l'air
ready, je pense.
d'être.
Hein?
Ah, bah ouais. Ouais, enfin, Scoot
Donc.
Anderson l'était aussi, hein.
Oui, non mais bah, Scoot, il a eu du mal à démarrer, mais c'est normal. Mais tu vois, tu fais une doublette avec Alexandre Sarr, ça a
Ah oui,
quand même de la gueule, hein.
et nous, on serait plus que contents. Ça, c'est clair.
Tu mets Alexandre Sarr poste 3, t'as Wemby dans la peinture, tu rajoutes du Sohan, du tout ça, là, qui sont quand même plutôt adroits. Bon, après, il y a des lacunes défensives, mais ça, c'est autre chose. Mais franchement, le projet a de la gueule et je pense qu'il faut tout faire pour le préserver. Voilà. Je sais pas ce que t'en penses, Vincent, parce que
Ah
t'as
mais
pas trop
si, ah
réagi,
non,
mais.
si. Moi je suis totalement d'accord avec toi. Mais là, moi, je suis vraiment le fan de base qui
Ah bah
dit ça me
ouais.
casse les couilles. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, s'il joue 35 minutes, en fait, je pense qu'il met 25 points, 26, 27 points par match, il met 5 contre, Tu vois ce que je veux dire?
Il est déjà à 3,5 contre.
Hein, tu fais jouer 12 minutes de plus, mais il met 5 contre par match. Et t'auras jamais vu ça dans l'histoire de l'NBA.
Et il prend 5 rebonds de plus et il met presque 10 points de plus.
Parce que pour moi, alors peut-être pas cette année parce qu'il a justement un temps de jeu qui n'est pas énorme, mais il va nous sortir un quadruple double bientôt.
Ah, mais c'est ça. Ouais,
ça va arriver.
Là, déjà cette nuit, il vient de sortir un triple double. Avec
en
16
moins,
points.
En 21 minutes. 21
16
minutes.
Points, 12 rebonds, 10 passes.
Il y a 0 contre, par contre.
Ah, il n'a pas fait un contre. Putain, c'est
non, il n'avait pas envie de défendre.
Mais pour le coup, il peut rajouter 8 contre, 9 contre.
Bah oui.
Donc, ça fait. Dans sa carrière, je me mouille pas trop, je pense, en disant qu'il réussira à triple. Ah, quoi,
et je pense qu'il a quand même des consignes aussi pour pas trop se donner, des fois, pas trop aller au mastic. Parce que là, j'ai vu le match de cette nuit en format 10 minutes, là. Il y a des actions. Non, mais là, il y va. Il va le scotcher, le mec. Et il y va pas. Je pense qu'il doit avoir des consignes en mode, gros, va pas faire le con à te faire une blessure à la con. Mais je pense que quand il sera au top, je veux dire, physiquement, dans la dureté et tout, ça va être un carnage. Il n'y a,
après,
y a rien
oublier,
à faire.
Après, faut pas oublier qu'il apprend et que c'est sa première année qu'il a dit.
Mais voilà, exactement. Mais là, ça fait peur, en vrai, quand tu regardes tout. C'est...
Et nous aussi, vu d'en haut, vu spectateur, on a des lectures de jeu que peut-être lui, il n'a pas forcément sur le moment.
Non, parce que des fois, t'as l'impression...
Ouais, il met l'élan, je les vois, ces actions.
Ah, ça, c'est horrible.
Mais justement, est-ce qu'il n'a pas la lecture de jeu pour aller le défendre sans se faire mal? Tu vois, en mode, là,
non,
je sais qu'il m'a contré, mais comment je retombe?
Mais, là, mais je pense que c'est le truc... Stop. Bah ouais, c'est ce que je dis, je pense que physiquement...
Que des kamikazes comme ça, on en a connu, hein, mais en fait, les mecs, ils tiennent plus après.
Des mecs qui faisaient pas gaffe à leur corps, y en a un, c'est du D-Rose, quand tu vois ses appuis à l'époque, maintenant c'est terminé. Hein. Westbrook, c'est pareil, c'est plus trop flamboyant, même s'il a encore une bonne carrière.
Ouais, mais Westbrook, en soi, ne s'est jamais vraiment blessé, et pourtant, attaque-défense...
Il s'est fait le genou, il est revenu 2 mois après, ou 3 mois après, je crois.
Ouais, mais c'est une...
T'as déjà vu ça? C'est un truc de ouf, bref.
Donc voilà pour Wemby. Je pense que les gars, on a fait une émission assez complète. On va s'arrêter là-dessus. Voilà, on vous souhaite évidemment de passer la meilleure année possible. Et sinon, on va continuer sur l'outro habituel. C'est ainsi que se termine cette émission. On espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez retrouver les émissions précédentes sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast. On est évidemment sur les réseaux sociaux Instagram et Twitter @WakeUpNBA. Nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Voilà, vive le basket, vive la NBA et très bon Paris Game à tous.
Ciao.
Ciao.
Salut tout le monde.